Bonjour, ça va la forme? Ça fait plaisir d'être ici. Quelle belle église.
Je suis déjà venu quelques fois en pastoral, comme on dit. On se voit des fois entre pasteurs, c'est très sympa. C'est génial de pouvoir être dans la même région aussi. Nous, on est quoi? Peut-être 15, 20 kilomètres plus loin. On est vraiment dans ce pied du Jura. Magnifique région. Je suis venu aujourd'hui avec ma femme, Marie, qui est juste ici. Ma magnifique femme. On est mariés depuis 2 ans. Et je suis pasteur à Ballan, dans l'église En Chemin. J'ai pris la place de Jean-Pierre Junot là-bas. Et avec Marie, on habite vers Neuchâtel. Voilà. Parce qu'elle travaille à Canal Alpha dans l'audiovisuel. Elle est réalisatrice audiovisuelle. Réalisatrice, c'est ça. Et ça lui plaît énormément. Voilà. Donc, voilà, on compose de cette manière-là. Et pour moi, ça fait un peu d'aventure comme ça. Alors, ça fait plaisir d'être ici ce matin. Je vais vous parler d'un personnage qui m'a beaucoup interpellé. Mais tout d'abord, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que c'est un arc narratif? Ah, j'ai entendu un oui là-bas. Un arc narratif, qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé une définition sur Internet qui disait « L'arc narratif désigne l'évolution intérieure d'un personnage tout au long d'un récit. » Intéressant. Il ne s'agit pas seulement d'une succession d'événements, mais d'un cheminement émotionnel, psychologique, parfois moral, je dirais même aussi spirituel. Vous regardez des films? Vous avez sûrement un style de film que vous aimez plus que d'autres. Moi, j'aime pas mal de choses. J'aime bien les vieux westerns. Ça me plaît beaucoup. Le Bon, la Brute et le Truand, par exemple. C'est des films qui me parlent énormément. Très longs, contemplatifs, etc. Avec toujours un cow-boy triomphant. Voilà. Mais vous êtes d'accord que dans un bon film, il faut des personnages auxquels on puisse s'attacher, auxquels on puisse s'identifier. Il faut que le personnage transmette quelque chose. Ou sinon, c'est compensé, surcompensé par d'autres choses. Des effets spéciaux incroyables, des explosions partout. Quelque chose de divertissant, mais au final, qu'est-ce qui fait vraiment qu'un film nous marque profondément? Il faut qu'il y ait des personnages qui soient intéressants. Sinon, on n'a pas envie de regarder le film. Et on a envie que justement ce personnage, eh ben, il puisse avoir une évolution, que ces héros dans le film, ils puissent, ben voilà, avoir une certaine trajectoire. Il y a des séries qui passent, des fois, une grande série qui a marqué beaucoup de gens, qui est peut-être un peu violente, c'est Game of Thrones. Il y a toute une évolution. Alors, c'est vrai qu'il y a des scènes un peu trop violentes, je vous le cache pas, mais voilà. Mais il y a une évolution des personnages qui est terriblement intéressante dans cette série. C'est ça qui l'a rendue autant populaire. Donc on a besoin de voir le personnage évoluer. Et j'aime bien aussi nous voir comme ça. On est tous des personnages finalement qui sont dans des récits. Chacun a une histoire ici. Tu as ton histoire, j'ai la mienne. On est tous comme un peu des personnages qui évoluent dans une histoire et qui avons des choix à faire, différents carrefours qui nous feront évoluer d'une certaine manière dans notre histoire, qui nous feront des fois prendre des bons tournants et des fois des mauvais tournants. Dans quelle histoire est-ce que tu t'inscris? Quelle est ta trajectoire? Quel est ton arc narratif? C'est ça que je trouve intéressant. Et dans la Bible, finalement, la Bible, principalement, c'est des histoires. Une grande partie de la Bible, c'est des histoires avec des personnages qui évoluent, des personnages qui ont des développements des fois incroyables. À l'église, on fait une série d'études bibliques, on fait sur le roi David, et avant ça, on a étudié un petit peu le roi Saül. Et on voit son évolution, son arc narratif au roi Saül, qui était vraiment finalement assez sombre. Quelqu'un qui a pris des mauvais choix, et on voit ça dans toute l'histoire du peuple d'Israël, où il y a ces successions de rois, finalement, qui prennent des mauvais choix. Et là, le personnage dont je vais vous parler aujourd'hui, il est dans le Nouveau Testament, il est dans Luc 5, les versets 27 à 32, je vais vous parler du collecteur d'impôts. Ça vous dit quelque chose ? Lévi. Lévi qui est devenu Matthieu. Celui-là, il a un développement qui est incroyable. Donc Luc 5, 27 à 32, on peut le projeter. Après cela, Jésus s'en alla et vit en passant un collecteur d'impôts nommé Lévi, installé à son poste de péage. Il l'appela en disant « Suis-moi ». Cet homme se leva et laissa tout et suivit Jésus. Lévi organisa dans sa maison une grande réception en l'honneur de Jésus. De nombreuses personnes étaient à table avec eux et parmi elles des collecteurs d'impôts. Les pharisiens, les spécialistes de la loi qui appartenaient à leur parti, s'indignaient et interpellèrent les disciples de Jésus. « Comment pouvez-vous manger et boire avec ces collecteurs d'impôts, ces sales pécheurs, ces pécheurs notoires ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Voilà. J'avais une petite faute de frappe. Voilà. Donc on a ce récit de Lévi qui est appelé à devenir Matthieu, ce collecteur d'impôts. Alors on va peut-être faire ensemble un petit profil du personnage de ce Lévi. Alors on le voit assis à son poste de péage à l'entrée de la ville, quelqu'un qui fait ce job-là, qui a cette profession-là. Quelles sont ses qualités ? Voilà, exactement. C'est bien calculé. Il était calculateur. Ok. Quoi d'autre ? Rigoureux, ouais. Mm-hmm. Intelligent. Vous imaginez le nombre de langages différents qu'il devait parler ? Il devait y avoir pas mal de va-et-vient. Personnes de différentes ethnies, différents pays. Donc là, on est en Israël, à l'époque de Jésus, où la domination, c'était sous la domination de l'Empire romain. Ils devaient parler toutes sortes de langues. Ils étaient sous la domination sous une domination assez dure. Mais il y avait beaucoup de va-et-vient. Et puis du coup, il devait être intelligent et parler plusieurs langues, ce Lévi. Donc intelligent, calculateur. Il devait connaître aussi la loi et les coutumes de tous ces différents peuples. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour qu'il soit comme ça méprisé par les pharisiens ? Pardon ? Pas de pitié, voilà. C'était même dit qu'il était immoral. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il collaborait, il était engagé par les Romains. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'emprise des Romains était très forte. L'oppression était très forte. Donc c'était un peu un traître. Comment on appellerait une personne comme ça aujourd'hui ? Voilà, un collabo. C'est le titre de mon message d'ailleurs, de collabo à ambassadeur du royaume. Donc ce Lévi était un collabo, un traître. Quelqu'un qui s'enrichissait sur le dos de son propre peuple. Lévi, il n'y a pas plus juif comme nom. Hein ? Donc bien évidemment, c'est un juif qui bossait pour les Romains. Un collabo. Donc Jésus, pour le côté intelligent que Lévi avait, il avait raison de le prendre avec lui. C'était lui qui savait écrire, qui savait parler toutes sortes de langues. C'était quelqu'un qui saurait plus tard raconter les récits de la vie de Jésus. Mais pour le côté immoral, le côté collabo, c'est un peu un disciple compromettant, vous ne trouvez pas ? Jésus, il passait du temps avec des gens compromettants. Est-ce que vous avez déjà passé du temps avec des personnes un peu compromettantes ? Vous avez des amis un peu compromettants comme ça ? Moi, une fois, j'ai travaillé un peu, collaboré musicalement avec quelqu'un, pas énormément, mais un petit peu, quelqu'un que j'appréciais assez bien, et j'ai reçu un message de la part de quelqu'un sur Facebook, c'était à l'époque où c'était encore populaire, Facebook, pour me dire de faire très attention. Parce que cette personne avec qui je travaillais un petit peu, c'était une personne populiste, une personne de droite. faut croire que cette personne n'aimait pas trop ça. Vous vous rendez compte, le clivage, même en Suisse, il y a des clivages comme ça. Et c'est un mécanisme qui me répugne de recevoir un message de quelqu'un qui me dit, quelqu'un que je connaissais, « Fais gaffe ! Fais gaffe, cette personne, elle n'est pas très bien, elle est compromettante. » Ça donne un peu un signe dans le temps dans lequel nous sommes maintenant. Mais au temps de Jésus, il y avait aussi des mécanismes comme ça. Voilà. Jésus qui traînait avec Lévi, il était invité à une grande fête, les pharisiens étaient là et ils jugeaient. Parce que Jésus traînait avec ces personnes qu'il n'aimait pas. Une autre chose aussi, quand je parle de collabo, de traître, est-ce que vous avez une image qui vous vient en tête ? Est-ce que vous pensez à quelqu'un que vous n'aimez pas ? Un politicien, peut-être ? On a tous des figures que l'on n'apprécie pas. J'échappe pas à la règle, hein. Il y a des politiciens que j'aime pas. Ben Jésus, il appelle aussi ces personnes-là. Bouleversant, hein ? Ok. On a un peu le profil du personnage maintenant. Alors, qu'est-ce que Jésus, il lui a dit à ce personnage pour qu'il se lève comme ça et qu'il le suive ? Est-ce qu'il lui a présenté un grand programme ? Je vais te donner un petit, un petit schedule, un petit programme de ta semaine. Tous les jours, tu feras de l'exercice, de la méditation et tout pour devenir une personne meilleure. Ça va être incroyable, tu verras. Ça sera un changement complet. Est-ce que c'est une grande promesse, par exemple, avec toi, on va fonder une nouvelle religion qui impactera le monde entier ? Tu seras un apôtre de ma nouvelle religion ? Je provoque un petit peu, hein. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit ? Suis-moi. Pas de grand programme, pas de grande promesse, juste une invitation. Suis-moi. Alors, pourquoi ça a résonné comme ça dans le cœur de Lévi ? Qu'est-ce qui a fait qu'il se lève ? Ce Lévi avait tout ce qu'il voulait. Il avait sûrement gagné le monde d'une certaine manière. Il vivait bien. Bon, il ne se faisait pas des amis, mais voilà, financièrement, aucun problème. Il savait comment s'enrichir aussi, même si ce n'était pas très honnête. Mais il y avait cet appel, quelque chose peut-être qui bouillonnait en lui. J'ai mis, Lévi avait gagné le monde, mais le Matthieu en lui n'était pas satisfait. Il y a des moments clés dans la vie où tout à coup, la vie, ou plutôt Dieu, nous pose une exigence. Une exigence nous invite à regarder les choses dans une perspective d'éternité. Ça vous dit quelque chose ? On est pris dans tous nos schémas, dans tous nos quotidiens, on entreprend toutes sortes de choses, et tout à coup, Dieu nous appelle à regarder plus haut, à voir les choses d'une autre manière, à vivre pour des choses qui sont impérissables, à regarder, à investir dans l'éternité. Est-ce que tu as déjà eu un changement de vie comme ça, où c'est comme si Jésus est arrivé vers toi, il a dit « Suis-moi » et tu t'es levé ? C'est des moments pivots dans nos vies, des moments qui changent, qui bouleversent notre histoire. Moi, j'ai eu ça, je me rappelle, c'était en 2014. J'avais un groupe de métal, j'aime beaucoup le métal, c'est très chouette musique, mais j'aime toutes sortes d'autres choses. Hein. J'aime aussi le jazz, j'ai fait de la musique, une école de musique, j'aime vraiment tout plein de styles de musique. J'avais un groupe de métal à cette époque-là, et puis... Ben voilà, j'avais des bonnes intentions de vouloir représenter Christ là-dedans. Et en même temps, ma vie était désordonnée. Et je vivais d'une manière que je sais ne glorifiait pas Dieu. Il y avait un énorme travail à faire en moi. Et tout à coup, je suis allé voir ma sœur qui était aux États-Unis, qui faisait une école de louanges. Et là-bas, j'ai été saisi par Dieu. Un truc complètement incroyable. Ça m'a retourné. Et quand je suis rentré en Suisse, après juste 2 semaines aux États-Unis, tout à coup, j'ai vu les choses différemment. quand je voyais quand on était avec mes amis en train de boire en festival, tout à coup c'est comme si j'étais de l'autre côté de la vitrine, où je voyais les choses avec un recul qui était différent. Tout à coup, une petite voix en moi qui me disait « Mais tu veux continuer à vivre comme ça ? Ou bien est-ce que tu veux, ou est-ce que tu veux me suivre d'une manière beaucoup plus forte ? Est-ce que tu veux passer au stade supérieur ? Est-ce que tu veux être transformé par moi ?» Ça vous est déjà arrivé ces moments où tout à coup, vous prenez du recul et vous voyez les choses d'une manière entièrement différente. Et vous vous dites, ok Seigneur, là je suis prêt à être transformé par toi, je suis prêt à changer de vie. Et c'est un peu ça qui s'est passé, enfin c'est même complètement ça qui s'est passé pour Lévi. Tout à coup, ces paroles « suis-moi » ont touché un besoin intérieur profond. Si ça ne répondait pas à un besoin intérieur profond de Lévi, il aurait juste vu ce monsieur un peu bizarre passer et il se serait dit « Bon, ben, je ne sais pas qui c'est, un peu bizarre le gaillard, le bonhomme. » Il n'en aurait rien pensé. Mais ce que Jésus lui a dit l'a bouleversé. Ça a touché quelque chose en lui. Plus tard, quand on avance dans le livre de Luc, au chapitre 18, Jésus, il va avoir une interaction avec un jeune homme riche. Ça vous dit quelque chose ? Un jeune homme riche qui, en tout point, moralement et tout, était supérieur à Lévi. Et Jésus lui demande de tout quitter, de vendre ses biens pour le suivre. Et ce jeune homme riche, qui était pourtant bien supérieur à ce Lévi, il ne pouvait pas le faire. Jésus a appelé Lévi le collabo. Le jeune homme riche, ben voilà, il a vécu sa vie, on ne sait pas comment, sûrement en étant une bonne personne, en honorant Dieu. Mais c'est Lévi qui a répondu à l'appel du Christ. Et c'est Lévi qui a... un des apôtres avec lesquels Jésus a construit l'Église. Waouh ! Je trouve ça magnifique. Ce qu'il a fait, Lévi, c'est qu'il s'est donné complètement à Christ. Et ça me fait me dire une chose, c'est que c'est seulement en se donnant complètement à Christ que lui, à son tour, peut se donner complètement à nous. Donc il y a toujours ce mécanisme-là où il attend que nous fassions notre part aussi. Si tu as envie d'être rempli du Christ, eh ben, tu es comme un gobelet, un verre qui doit aller sous le robinet. Si tu mets un verre sous le robinet et que tu le retires direct, bah, tu vas pas retirer grand-chose. Il faut te donner complètement à Christ pour que lui puisse se déverser complètement en toi. Et c'est ça aussi qu'on vit dans les moments de Sainte-Seine, n'est-ce pas ? C'est cette ouverture au Christ. Jésus, Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut, aie pitié de moi, un pécheur. Je m'ouvre complètement à toi. Déverse-toi en moi. Déverse-toi en moi. Transforme-moi de l'intérieur. Bouleverse mon scénario de vie. Viens chambouler mon histoire. Si je n'avais pas rencontré Christ, je ne sais pas quelle trajectoire ma vie aurait prise. Mais je ne suis pas très, très optimiste par rapport à ça. En tout cas, dans mon cas, je sais que ça aurait vraiment été la catastrophe. Dieu a bouleversé mon scénario. Dieu a bouleversé mon arc narratif. Il peut le faire avec toi aussi. Donc Jésus transforme les scénarios. C'est ça qu'on peut retirer de cette histoire. Jésus transforme les scénarios, tous les scénarios. Il n'y a rien qui est au-delà de ses capacités. Et Jésus utilise qui il veut. Est-ce que tu es d'accord de te laisser bousculer aussi sur cet aspect-là ? C'est très défiant dans le contexte actuel de se dire que Jésus peut utiliser des personnes qu'on voit comme étant mauvaises, comme étant des traîtres, comme étant des personnes qui n'ont aucun intérêt pour leur propre peuple, par exemple. Ça me fait me dire aussi que la culture du royaume de Dieu doit venir en premier. au-delà des clivages idéologiques? Est-ce que nous sommes prêts à surpasser nos clivages idéologiques pour mettre le royaume de Dieu en premier? Ce n'est pas délaisser nos opinions, mais c'est se rappeler que nous sommes avant tout au service du royaume de Dieu. Nous appartenons au royaume qui est là en haut. Ce royaume d'ici-bas, il est imparfait. Notre système, il a ses limites. Et nous, on appartient au royaume de Dieu. Et on travaille pour ce royaume-là. Arrive-t-on à passer par-dessus notre haine pour certains types de personnes pour réussir à voir leur valeur aux yeux de Dieu ainsi que leur potentiel? Donc je pense que pour ça, des fois, on doit se repentir de la manière dont on regarde les autres autour de nous. Et je me parle à moi-même. Je me parle à moi-même parce que j'ai aussi des opinions, j'ai aussi une vision du monde. Voilà un peu ces deux dimensions. D'une part, Jésus transforme toutes les histoires, tous les scénarios de vie, et il attend que tu te donnes à lui pour se donner à toi. Et d'une autre part, on doit accepter à notre tour, en tant que citoyen du ciel, que Jésus appelle qui il veut. Il y a cet appel aussi à prendre sa croix et à suivre Jésus. Dans Matthieu 16, 24, on peut aussi le projeter celui-là. Un passage très fort qui dit « Alors Jésus dit à ses disciples, ah il y a un écran ici, c'est super, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'est-ce qu'il y a dans ce passage? Qu'il prenne sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire prendre sa croix? C'est un renoncement à soi, c'est accepter d'être prêt à souffrir pour ce royaume que nous servons. Accepter à souffrir pour le Christ s'il le faut. C'est d'imiter Lévi qui est devenu Matthieu. C'est accepter de souffrir pour une cause qui nous dépasse. C'est aussi une autre chose, prendre sa croix, c'est une prise de responsabilité. Vous y avez déjà pensé à ça? Prendre sa croix, c'est aussi prendre ses responsabilités. Moi, avec qui je suis, avec mes blessures, avec mon histoire, je décide de suivre le Christ. C'est accepter de se lever quand on est abattu. C'est accepter de s'activer. C'est accepter de sortir aussi du statut de victime que le monde nous donne si facilement. C'est tellement facile actuellement d'être une victime. On peut être victime de tellement de choses. Et le monde va nous plaindre et va nous donner un statut de victime. C'est génial, super. Mais qu'est-ce que tu fais de ça après? Jésus nous invite à sortir de ce statut pour le suivre. Et ça veut dire prendre sa croix, prendre ses responsabilités, vivre pour quelque chose de plus haut, de plus élevé, pour le royaume des cieux, qui viendra transformer toute la création. Pour ramener le royaume des cieux sur cette terre, répandre cette culture. C'est se mettre en chemin avec Christ. Voilà, j'arrive gentiment au bout, mais je vous laisse un peu avec deux questions sur lesquelles je vais peut-être prier. La première, es-tu prêt à passer par-dessus ton mépris pour certains types de personnes, pour voir la perspective que Dieu a sur elles? Je vais déjà prier là-dessus, et après je vais prier pour la suite. Seigneur Jésus, on se place devant toi. Tu vois nos cœurs, tu sondes nos pensées. Tu vois ce qui nous anime, tu vois nos valeurs profondes aussi en tant que chrétiens. Et merci parce que c'est des choses qui vibrent en nous, qui tu nous appelles pas forcément à délaisser des opinions qu'on a, mais tu veux aussi qu'on ait un regard d'amour sur les personnes qui sont autour de nous, les personnes qu'on jugerait comme étant méprisables. Seigneur, on veut se repentir pour le regard qu'on a des fois sur ces personnes. Tu as créé l'être humain à ton image et tu nous donnes de voir avec tes yeux les merveilles que tu as placées en chacun, en chacune, autour de nous, même dans les personnes qu'on n'arrive pas à comprendre, même dans les personnes qu'on juge méprisables. Place en nous, Seigneur, un regard nouveau, des dispositions nouvelles, un cœur aimant, un cœur qui cherche à créer des ponts dans la mesure où c'est en notre pouvoir. Aide-nous à être vraiment des lumières dans ce monde qui est polarisé, à pas tout antagoniser tout le temps, mais à apporter ton royaume, ta lumière. Donne-nous, Seigneur, cette lumière, cet éclat de charité. Au nom de Jésus, amen. Et la deuxième question, c'est: es-tu prêt à te donner entièrement à Christ pour qu'il se donne entièrement à toi? Je vous l'ai dit, c'est ce qui se passe quand on vit ces moments de Sainte-Cène que j'aime énormément. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu sens que tu es un peu comme Lévi, à une sorte de pivot dans ta vie, dans ton développement, dans ton histoire. Que tout à coup, ben, tu sens qu'il y a comme un appel à quelque chose de plus, à vivre pour quelque chose de plus élevé. Alors je vais simplement prier. Et peut-être que si tu es dans ce cas-là, tu peux mettre la main sur ton cœur et puis je prierai pour toi. Seigneur, merci parce que ton Fils s'est donné une fois pour toutes pour nos péchés, mais merci aussi parce que tu es un Dieu qui par nature te donne. Tu débordes, Seigneur, c'est ta nature. Tu es un Dieu généreux qui se donne à ses créatures constamment. Et on veut te recevoir aujourd'hui. Viens bouleverser le scénario de vie des personnes qui en ont besoin. Et on en a tous besoin dans une certaine mesure. Viens transformer ceux qui sont à ce point, ce moment charnière de leur vie. Que vraiment tu puisses faire une œuvre marquante aujourd'hui. Viens faire de nous des disciples comme Lévi qui sont prêts à se lever, à prendre leur croix et te suivre. Aide-nous à nous focaliser au quotidien sur les choses qui ont une importance dans l'éternité. Aide-nous à regarder à l'impérissable, Seigneur. Accompagne-nous. Merci. Amen.